Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Fluxfort, et c'est déjà la dernière émission de cette riche semaine de présence de la radio au Festival de cinéma de Belfort. Je suis Nicolas Bézard. Et depuis mercredi, la critique de cinéma et autrice Öykül Sofuoğlu, la journaliste et critique Caroline Châtelet et moi-même avons tendu nos micros vers celles et ceux qui sont mis à l'honneur lors de cette 39e édition d'entrevue. Alors bien entendu, nous ne serions pas très audibles sans les talents de notre réalisateur son, Olivier Legras, qui nous accompagne depuis le début. Et puisqu'il faut bien en finir, alors finissons-en en beauté, et même mouillons-nous un peu en portant à votre attention un long métrage qui sera peut-être primé demain soir à Belfort. Enfin, c'est ce qu'on lui souhaite vivement, et de tout cœur, je veux parler de Soft Shell de Gino Myung, jeune cinéaste américain qui nous fait la joie d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Gino.
Hello.
Alors, les soft shells, ce sont des tortues à carapace molle qui sont évoquées dans votre film, des animaux peu considérés et dont la fragilité semble incompatible avec la survie en milieu naturel. Et au début du film, vos deux personnages d'une vingtaine d'années, Jamie et Narin, nous paraissent eux aussi démunis et impréparés à affronter leur entrée précipitée dans le monde des adultes et leurs toutes nouvelles conditions d'orphelins, puisqu'ils viennent en effet de perdre leur mère. Unis par des liens qu'on devine à la fois forts et doux, ils se laissent porter dans le courant parfois imprévisible du quotidien, de rencontres étonnantes en révélation, discrètes ou plus brutales. Gino Myung, si l'écrivain new-yorkais légendaire Jérôme David Salinger avait aujourd'hui votre âge, c'est-à-dire 23 ans, et qu'il choisissait la caméra plutôt que le stylo, nul doute que ses films ressembleraient beaucoup à Soft Shell. Comment le cinéma est-il entré dans votre existence et pourquoi il vous tenait à cœur de nous raconter l'histoire de ces jeunes gens dans ce film qui dresse un portrait sensible et moderne de la jeunesse américaine d'aujourd'hui?
I think I've always liked cinema growing up in the States, in Los Angeles, to an immigrant father who grew up watching all kinds of films.
J'ai toujours aimé le cinéma, ayant grandi aux États-Unis, à Los Angeles. Le cinéma m'a suivi pendant ma jeunesse, d'autant plus que mon père, en étant immigré, voyait tout genre de films de partout, même si c'était davantage des films mainstream qui passaient dans les cinémas, etc. Ensuite, je me suis intéressée au cinéma indépendant avec la caméra à l'épaule durant la pandémie. Au lycée, je ne me projetais pas du tout dans le cinéma. J'imaginais pas du tout que je pourrais faire une carrière là-dedans. Et du coup, j'ai commencé à étudier des études d'histoire à Portland, Oregon, dans une université privée. Et donc, je suivais mes études d'histoire. Je prenais beaucoup de cours d'humanité différentes, sciences humaines, etc. Et ensuite, pendant la pandémie, je me suis mis à regarder vraiment beaucoup de films. Et c'est là où j'ai découvert les films des années 2000, tournés en 16 mm, les films du style qu'on appelle aujourd'hui mumblecore. Et j'ai commencé à être fasciné à la fois par l'esthétique de ces films et par les histoires qui étaient racontées dans ces films. Quelque part, ces films me semblaient un peu plus accessibles à ce que je pourrais faire un jour, même si c'était quand même loin et je pensais quand même que c'était impossible. Il me semblait néanmoins plus proche. Tous aujourd'hui ayant quand même l'expérience, la connaissance de filmer et d'être filmé avec les portables, par exemple. Donc, à la fin de mon première année à l'université privée à Oregon dont je parlais, j'ai décidé de postuler à NYU Tisch dans un cours de cinéma pour faire des études de cinéma. Et c'est là où j'ai passé les trois années suivantes en étudiant le cinéma. Donc, je pense que c'est un peu cliché aujourd'hui peut-être de dire qu'on devrait faire des films qu'on ne voit pas ou peu, mais quelque part, c'est aussi pour ça que je fais des films aujourd'hui. Je pense que surtout dans le genre du mumblecore, on lui reproche souvent aux États-Unis de raconter des histoires un peu auto-centrées sur une certaine jeunesse issue d'une population bourgeoise blanche états-unienne. Mais c'était un style, une certaine esthétique qui me correspondait, qui faisait écho en moi. Donc, moi, je me suis décidé de m'emparer de ces procédés cinématographiques pour raconter d'autres histoires, des histoires qu'on voit moins souvent au cinéma, et notamment les histoires d'une jeunesse qui est issue de l'immigration asiatique américaine. Il y a d'autres cinéastes qui parlent de ces histoires-là. Audrey Young, je crois, peut-être je me trompe, mais je pense qu'elle s'appelle Audrey Young. Elle a fait un film appelé In Between Days, comme la chanson de The Cure. C'est un super film. Donc voilà, c'est un peu ces histoires-là que j'ai voulu raconter et c'est cela qui m'a mené à faire ce film.
Speaking of mumblecore, I had a question to you as both
donc,
as
juste pour
and,
rebondir
and
sur ce genre du mumblecore, je me suis demandé si justement aujourd'hui, avec des populations issues des origines asiatiques américaines sans parents de ce genre esthétique-là, est-ce que vous croyez qu'il peut néanmoins être quelque part colonisé, gentrifié en tout cas par des grandes compagnies de production qui pourraient se l'approprier en faisant des films soi-disant lofi, mais ensuite en réalité avec des réalités économiques beaucoup plus vastes que ceux faits par des gens.
I think this might answer I don't know if this answers the question quite well, but I always thought it was funny how this quote unquote mumblecore genre has been criticized because it is criticized as this lo-fi typically like early 2000s digital video kind of filmmaking where the characters are these upper middle class.
Je vais pouvoir donner une vraie réponse à cette question, mais en tout cas j'ai toujours trouvé assez drôle. Assez étonnant en tout cas que le genre mumblecore soit aussi critiqué comme une forme de cinéma lofi avec du vidéo digital du début des années 2000 se concentrant seulement sur des personnages issus d'une certaine bourgeoisie, d'une jeunesse blanche, etc. Alors que en réalité, ces histoires-là sont très, très niches et elles se sont généralisées pour venir infecter, entre guillemets, tout le genre mumblecore quand finalement l'esthétique et les caractéristiques stylistiques du mumblecore se retrouvent à peu près dans tous les films du cinéma indépendant, quel qu'il soit. Donc, je trouve que c'est une critique assez dure, pas très juste, d'autant plus que je pense que faire des films avec une caméra, en portant une caméra à la main, avec la caméera à l'épaule, etc., fera toujours partie du cinéma indépendant, dans la mesure où, tout simplement, où ça traduit souvent des conditions de financement relativement réduites, où on n'a pas le luxe d'avoir accès à un matériel plus cher, plus professionnel, etc. Donc, je dois dire que je ne comprends pas les critiques, surtout celles qui viennent d'autres cinéaste, dans la mesure où littéralement il s'agit juste de prendre une caméra et d'essayer de faire quelque chose avec. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà.
Il me semble que si. Et justement, comme on parle de l'économie de ce film à petit budget, néanmoins, vous avez tenu à faire un choix fort, un parti pris plastique fort, c'est celui de la pellicule. Votre film est tourné donc avec des caméras argentiques, avec un très beau travail sur la photographie d'ailleurs de Rhys Scarabosio. Je voulais savoir pourquoi vous aviez tenu à tout prix à utiliser ce médium, sachant que ça coûte cher. Je crois que d'ailleurs que vous avez dû travailler. Prendre des jobs pour pouvoir payer les films, les développements, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre attachement sur la pellicule, sur ce film, et comment vous avez travaillé justement avec votre chef opérateur pour obtenir des plans qui sont une esthétique qui, je trouve, moi, personnellement, très belle, avec une vraie recherche sur les couleurs. Par exemple, je me souviens quand Narine va dans un magasin, entre dans une boutique avec énormément de plantes, il y a toute une poésie du vert d'un seul coup dans un plan où sa tenue, ses vêtements et tout le décor autour correspond des dialogues à travers cette couleur.
Yeah, so it's interesting. Motion picture film is not the norm anymore. A filmic look is now already aesthetic. I'd like to think most people who watch cinema, even vaguely or
a
lot, know what a
très intéressante.
Will know what a filmic image is.
Déjà, je pense que aujourd'hui, la plupart des gens qui regardent des films, que ce soit des grands cinéphiles ou des personnes qui regardent quelques films par-ci par-là, connaissent et reconnaissent l'esthétique de la pellicule. C'est quelque chose qui est venu dans les mœurs, qui est entré dans l'imaginaire collectif et dans la vision du cinéma aujourd'hui. Donc, quelque part, tourner en pellicule nous permet d'apprécier immédiatement une certaine beauté plastique, une qualité esthétique qui nous rattache à toute une tradition de cinéma qui est bien connue de tous et de toutes. Donc, même si effectivement c'est un médium assez cher, d'autre part, la contrainte de la pellicule nous a aussi beaucoup aidé, notamment au niveau de la lumière, dans la mesure où on n'a pas du tout illuminé de manière artificielle les plans dans les films, c'est-à-dire que toute la lumière vient des sources naturelles ou bien d'une lampe ou d'une ampoule déjà présente dans les pièces où on tournait. Et l'avantage de tourner tout cela en pellicule, c'est que c'est immédiatement magnifique. Donc voilà, cela nous a beaucoup aidé.
Donc,
déjà, oui, voilà, il y a ça, et d'autre part, bon, peut-être que ça relève d'une certaine forme de paresse, mais en même temps, je voulais que le public puisse se sentir immédiatement proche des personnages que je mettais en scène, et je voulais que il y ait une espèce de proximité immédiate facilitée par la dimension esthétique peut-être un peu romantisée de la pellicule. D'autre part, j'essayais de réfléchir également à la manière dont le public, les gens en général, imaginent aujourd'hui se représentent des personnes issues des communautés asiatiques, orientales, entre guillemets, d'essayer d'imaginer quelles sont les images qui sont déjà attachées à ces univers-là. Et par exemple, si on regarde dans le Tumblr ou dans l'Instagram de quelqu'un, on pourrait voir une image issue d'un Wong Kar-wai avec les couleurs très saturées, le grain présent. Et donc voilà, je voulais faire écho à cet héritage cinématographique là. D'autre part, en ce qui concerne mon travail avec Scarabocchio, déjà on a des goûts qui sont vraiment très différents. Donc c'était intéressant puisque ça nous a apporté vers des endroits différents. Lui, il a l'habitude de travailler avec la pellicule. Il vient de là, d'ailleurs, il travaille avec une caméra française, une 16 mm Atlante, avec des lentilles fixes qui n'ont pas une fonction zoom, ce qui est très intéressant puisque pour s'approcher des personnages, on doit littéralement s'approcher avec notre corps ou s'éloigner. Donc ça crée un dynamisme vraiment très riche, imprégné d'un certain style français. Des frères Dardenne, par exemple, l'ont beaucoup influencé. Et l'utilisation de ces lentilles-là ont été vraiment importantes dans le tournage de ce film, dans la mesure où, par exemple, les scènes avec le frère et la sœur ont été tournées avec la lentille fixe, alors que les scènes où il y a d'autres personnages, on a utilisé une lentille zoom pour mieux se concentrer sur nos deux protagonistes. Donc voilà, ça a vraiment encadré notre travail avec les acteurs aussi.
Alors, Vous parliez de votre rapport à la pellicule, de votre usage de la pellicule, et moi, ça me rappelle quelque chose, en tout cas une remarque qui m'est venue en voyant le film. C'est, si je devais le résumer par un mot, je dirais peut-être, j'utiliserais peut-être le terme de générosité, parce que vous montrez dans ce film un vrai goût pour les gens, pour les portraits même impressionnistes de personnages, et d'une volonté aussi de faire entrer plein de choses dans ce premier long métrage de fiction. De le laisser en permanence ouvert au réel et à ce qui peut arriver sans vous enfermer dans une écriture qui soit trop rigide. Cette volonté comme ça d'ouvrir le film, est-ce que c'était quelque chose d'important pour vous ? D'ouvrir le film à tout ce qui peut peut-être arriver aussi au moment du tournage éventuellement.
Yeah, I think the way the film was made kind of maybe exists in the way that the film happens as well. I didn't think I was going to meet two half Thai actors within the span of three
Alors,
months that also happened to be
répondre à cette question,
my peers,
je commencerai en disant que quelque part la manière
and
dont le film s'est fait est reflétée dans le film lui-même, c'est-à-dire que sa conception, sa création se retrouve vraiment à l'écran. Donc voilà, par exemple, je n'imaginais pas du tout rencontrer deux comédiens mi-taille dans l'espace des quelques mois qui ont plus fréquenté la même université que moi. C'était complètement imprévu et en réalité, en les rencontrant, on est immédiatement devenus des amis. Et on a décidé de tourner une scène d'essai quelques semaines à peine plus tard. Et d'ailleurs, cette scène est aujourd'hui dans le film final. Donc, c'était très excitant. Et une fois la rencontre faite, les choses se sont faites de manière assez spontanée et naturelle au fur et à mesure. Et donc, quelque part, effectivement, tout le film essaye de répondre à la question de comment passer d'une scène à l'autre, dans la mesure où c'était la question qu'on se posait nous-mêmes pendant le tournage, pendant la création, comment suivre ces deux personnages, comment suivre le film dont ça a déroulé. Donc, en même temps, même s'il y avait beaucoup de spontanéité et beaucoup d'improvisation, ça c'est évident que c'est présent dans le film, il est néanmoins écrit. Et voilà, il est écrit de A à Z, avec un scénario précis, etc. Même si ce scénario a été écrit vraiment au fur et à mesure du tournage. En produisant et en écrivant le film en même moment qu'en le tournant, au fur et à mesure de son tournage, on a eu beaucoup de chance en fait à chaque fois, puisque on a eu des rencontres incroyables. Bon, bah, par exemple, l'actrice qui joue Lanty, la tante dans le film, on savait qu'il fallait inclure des liens familiaux à un moment donné dans le film, et donc on s'est décidé à écrire une compagnie de théâtre thaï basée à New York en leur demandant voilà, s'il y aurait quelqu'un intéressé. Finalement, elle nous a répondu enthousiaste. D'ailleurs, elle a joué dans un film Violent Funerals, qui a été projeté à Rotterdam, également tourné en 16 mm, qui suit l'histoire d'une jeune fille de 20 ans avec deux amis à elle qui partent en voyage. Enfin, voilà, c'était vraiment incroyable pour nous que cette actrice qui savait rien de nous, rien de notre film, nous réponde d'une manière si enthousiaste. C'était également ce qui s'est passé avec les plans dans l'aquarium. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer, on savait juste la scène finale, et puis au fur et à mesure on trébuchait, pour ainsi dire, sur des événements qui finalement étaient censés être dans le film. Voilà, tout ça pour dire enfin que je pense que quand on n'a pas d'argent et qu'on se décide de faire un film, en fait le film se fera lui-même, presque. Et ce sera difficile, il y aura bien évidemment des obstacles, mais si le film veut se faire, il se fera.
Alors, puisque vous parlez des rencontres qui ont nourri le film en amont et pendant le tournage, il y a une rencontre marquante que font vos deux personnages dans le film, c'est la rencontre d'un homme, un Américain d'origine coréenne, qui est venu alors qu'il était tout bébé sur le territoire américain et qui s'est fait adopter par une famille américaine. Et on a l'impression, lorsqu'on rencontre cet homme, que là, vous importez un moment quasi de pur documentaire à l'intérieur de votre fiction, car je présume que cet homme, vous l'avez filmé tel qu'il est, et il se présente dans le film tel qu'il existe en réalité. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de cet apport documentaire que vous avez donné à votre fiction ?
Yes, so as I was saying earlier, this was another this sequence. This it was a documentary, and he was just this person, this fisherman. He was just himself, and he was aware that we were making a fictional film about these two siblings. But I had come across him.
Alors effectivement, toute cette partie du film, ainsi que ce personnage, se relève complètement du documentaire. Le personnage, c'est un vrai pêcheur. Voilà l'histoire qu'il raconte dans le film et son histoire à lui, etc. C'est complètement lui-même. Donc, oui, vous avez raison, c'est vraiment du documentaire. Et c'est assez incroyable, encore une fois, la manière dont il s'est retrouvé dans ce film, dans la mesure où il était conscient qu'on faisait un film sur un frère et une sœur, c'est un film de fiction, etc. Mais il a néanmoins accepté d'en faire partie. Après que je l'ai contacté sur Internet, voilà, j'ai trouvé son profil et je me suis décidé de lui écrire. Donc voilà, il était au courant que le projet était une fiction, mais je lui ai écrit en expliquant que voilà, je fais ce film, ça suit un frère et une sœur, mais je voudrais aussi faire un documentaire sur toi et j'aimerais que des bouts de ce documentaire soient dans le film de fiction, donc est-ce que tu serais d'accord ? Et il a répondu de manière très très généreuse en disant oui, bien sûr. Voilà. Donc, ces rencontres-là ont donné à beaucoup plus de matière qu'on a tourné, puisque c'était vraiment un personnage fascinant. Donc, il y a beaucoup de matière qui reste de ces jours de tournage. Et d'ailleurs, pendant le tournage, on lui a demandé d'appeler les deux acteurs. Naren et Jamie, qui sont leurs noms de personnages, et lui, il a accepté, voilà, sans poser trop de questions. C'est vraiment un personnage assez fascinant qui a vécu des choses incroyables. Voilà, encore une fois, un hasard qui a constitué la matière même de ce film. Et je dois dire que après avoir vu pour la deuxième fois en grand écran le film ici à Belfort, je ne sais pas si je devrais continuer à le regarder avec le public. En tout cas, j'en ressens plus le besoin, mais cette scène tout particulièrement me rend encore assez émotionnelle. Voilà, c'était un moment fort.
Speaking of writing, I have two questions on the same theme, because you said you were adding scenes continually while you're making the film.
Pour rebondir sur la thématique de l'écriture, j'aurais deux questions à vous poser. Vous avez mentionné que vous ajoutiez des scènes au fur et à mesure du tournage. Donc, je voulais savoir si, au contraire, il y a eu des scènes que vous avez tournées, mais que vous avez décidé de ne pas inclure dans le montage, dans la version finale du film. La deuxième question, c'est concernant le processus que vous suivez lors de vos documentaires. Est-ce que c'est le même, c'est-à-dire avec cette même spontanéité, cette même part d'improvisation que celle dont vous parlez avec nous? Et d'ailleurs, peut-être vous pourriez parler un petit peu de vos documentaires également.
Yeah. So to answer the first question, because we were shooting on film, there is like some. You have to be a little conservative with knowing, feeling pretty confident about what you are going to shoot before you shoot it. So I would say, at the most, some scenes that are in the film were a little longer when we shot them, so maybe they're a minute or two shorter.
Alors, and maybe there's some B-roll of the characters question, that didn't make it into the film. Bon. C'est vrai que pour revenir à l'utilisation de la pellicule, dans la mesure où c'est très cher, c'est vrai qu'il faut quand même faire très attention à ce qu'on tourne et il faut être plutôt confiant dans les scènes qu'on sait seront dans le film une fois le montage terminé. Donc je dirais que presque toutes les scènes tournées sont dans la version finale du film. Il y en a peut-être eu quelques-unes, quelques plans qu'on a raccourci une ou deux minutes maximum, mais sinon la plupart sont dans le film final. Pour répondre à l'autre question sur mes autres projets plus courts et documentaires, etc., aujourd'hui, je suis en train de travailler sur une série des documentaires qui parlent de la diaspora coréenne-américaine. Donc, je me rends compte en postulant pour des bourses où je dois parler de mes forces et faiblesses et des forces et faiblesses de mes projets, que je me sens très, très confiant et très fort en tout ce qui touche à la pré-production, le fait de trouver une histoire, trouver des personnes dont je sens que leur histoire doit être racontée et ensuite de mener cela à la production. Tout cela, je pense que je le fais assez bien. Cependant, c'est vrai que ça me laisse beaucoup moins de temps pour la préparation concrète pendant le tournage, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois leur dire exactement, comment leur parler, dans la mesure où je sens que c'est surtout leurs témoignages qui doivent être entendus et que je voudrais juste donner une voix à ces personnes-là. Je laisse beaucoup d'improvisation se passer pendant le reste du temps et j'essaie simplement de capturer de ces témoignages, ces histoires. Voilà, je pense que c'est vraiment très, très important. Je pense notamment à Robert Kramer, qui est un autre réalisateur méconnu, qui a fait aussi d'autres documentaires, ou au Maya Angelou, qui a fait aussi des films dans le sud des États-Unis ethnographiques. Voilà, ça me tient vraiment à cœur de donner la possibilité à ces personnes-là de raconter leur histoire et ensuite le reste, c'est vrai que je laisse les choses se faire spontanément.
Alors une dernière question peut-être avant de vous libérer, Gino Myung. Vos deux personnages, Jamie et Naryn, sont liés par leur formation, par leur fascination commune pour les animaux. D'ailleurs, Softshell décline toute la gamme quasiment des rapports possibles entre les animaux et les hommes. Et parmi ces animaux, il y a une tortue dans une scène marquante du film, une scène très frappante. Dans cette scène, on a une jeune femme qui prend sa douche, on a un homme, on a un couteau, on a du suspense. Ce sont des ingrédients que l'on retrouve dans une des séquences les plus célèbres du cinéma, sinon la plus célèbre, qui est la scène de la douche dans Psychose de Alfred Hitchcock. Et plus largement, ce moment du film va déboucher sur un rapprochement émotionnel entre Jamie et Naryn. Et on sent qu'il y a un avant et un après ce moment de cinéma. Alors pourquoi était-il important pour vous d'inclure cette scène dans le tissu narratif et émotionnel de votre film ? Et est-ce que vous vous êtes posé la question de si vous n'alliez pas emmener le film vers une autre direction ou une autre couleur que celle que nous avions vue avant ?
I don't want to be too long, so I'll try to. I'd say there's. So I'll give a shorter answer, maybe. I think in the film we see how they look and how they relate to other people and how they speak.
Alors, affects je voudrais pas être
vice versa, how people
long.
Look at them and
Donc
how people
vais,
talk to them and
je vais perceive them. And, donc dans le film, on suit ce frère et cette sœur et on se rend compte que ce à quoi ils ressemblent, la manière dont ils parlent, la manière dont ils se perçoivent et perçoivent les autres personnes avec qui ils entrent en contact au cours du film, influence à leur tour la perception que les gens ont d'eux et la manière dont ils sont vus par les autres personnes et ils sont regardés, etc. Donc il y a cette thématique de la perception qui est importante, la manière dont on se perçoit et les autres nous perçoivent. Effectivement, dans la scène avec la tortue, je pensais à Psychose, c'était présent dans mon esprit. Je crois qu'il y a quelque chose de... évidemment stressant, un peu inconfortable quand il y a quelqu'un qui est dans une douche et quelqu'un d'autre, un étranger, qui est en train de violer, entre guillemets, cette intimité-là dans cet espace, et puis en plus accomplit une action violente. L'action dans le film est effectivement très violente. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la personne n'est peut-être pas violente du tout, au fond, mais en fait accomplit cet acte de violence, en l'occurrence, par ignorance, c'est un quiproquo, c'est une mécompréhension quelque part qui donne lieu à la violence. Et le film tout entier a quelque part commencé par cette scène-là, en réalité. Il y a eu une période où je regardais beaucoup de chaînes YouTube dédiées à des vlogs, à des vidéos de voyages, où c'était souvent des voyageurs occidentaux qui allaient dans des pays, entre parenthèses, non occidentaux, entre parenthèses, orientaux, pour filmer différents aspects de ces cultures qu'ils exotisaient dans les vidéos. Et c'est des vidéos qui ont parfois des millions de vues avec peu de commentaires. Voilà, et il y a toute une section de ces vidéos-là qui sont dédiées exclusivement à la cuisine, donc à la cuisine d'aliments et des créatures dites exotiques, étranges, inconnues en Occident. Donc là, on pourrait voir, par exemple, des homards se faire décortiquer ou des cochons se faire massacrer, puis cuisiner pour différents plats. Et en regardant ces films, ça m'a interpellée dans la mesure, enfin, le fait que avoir une forme de contexte d'éducation culturelle rendait acceptable l'accomplissement de tels actes et l'effet de les regarder sur YouTube ensuite comme si de rien n'en était. Donc voilà, je réfléchissais à tout ça et je pense surtout qu'il est important en fait de penser la manière dont on perçoit les autres, dont on regarde les autres, les filtres, les structures qui influent sur nos regards pour être bien conscient de ces filtres-là et se demander si on est d'accord avec cette manière de regarder réellement.
Merci infiniment, Gino Myung.
Thank you.
Et votre film Soft Shell donc concourt en compétition internationale du long métrage et indépendamment du résultat de cette compétition que nous connaîtrons demain soir, je pense qu'il aura marqué durablement les esprits des spectateurs ici à Belfort. Voilà. On vous souhaite le meilleur en tout cas avec ce film et de l'accompagner loin. Voilà, c'était Fluxfort, c'était l'exercice 2024 de notre présence à Entrevue. Au générique de fin, Olivier Legras à la réalisation. Oikou, Sophie Oglou aux questions, tout comme moi, Nicolas Bézard et Caroline Châtelet qui a commencé ces émissions aujourd'hui. Et on remercie chaleureusement et spécialement Rina Kenovic qui a assuré une très belle traduction des propos de Gino. Merci, Rina.
Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.